Et nous allons faire deux lectures. La première sera dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, versets 25 à 27. Et ensuite, nous lirons un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Je vous rappelle que nous lisons la parole inspirée de Dieu. Donc, Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et l'évangile de Jean au chapitre 3, et nous allons lire à partir des versets 22 jusqu'au verset 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous ouvrons ta parole et nous te remercions pour cette parole que tu nous as laissée, qui a traversé les siècles et qui encore aujourd'hui parle. Seigneur, nous te demandons de nous parler par ton Esprit Saint. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, ce texte bien connu de Jean, en réalité, j'ai lu à partir du verset 22. Mais la plupart d'entre vous connaissez bien tout ce qui précède ce fameux chapitre 3. C'est le fameux chapitre de l'entretien de Jésus avec un docteur de la loi, le fameux Nicodème, à qui Jésus annonce qu'il doit naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et cet entretien-là, donc, inclut le texte bien connu de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puis là, le texte dit que ça s'arrête là et que Jésus repart donc en Judée. Et c'est donc le texte que nous avons ce soir. Et là, Jésus baptise des gens. Et dans la même région, eh bien, il y a aussi Jean le Baptiste qui avait annoncé la venue de Jésus, et lui aussi qui prêchait, qui baptisait les gens. Et les disciples de Jean ne comprennent pas le rôle de Jésus, cette espèce de compétition à prêcher et baptiser des gens. Et la réponse de Jean est comme un rappel à l'ordre à ses disciples, mais il dit quelque chose de très curieux. Et c'est pourquoi je vais m'attarder plus sur le verset 28 et 29. Il dit « Je ne suis pas le Christ ». Mais j'ai été envoyé devant lui pour préparer, en quelque sorte, on peut dire, le plus grand, le plus beau, le plus joyeux mariage de toute l'histoire. Le mariage de Christ et de l'Église. Et donc, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est prendre cet exemple-là et montrer combien c'est le reflet du mariage entre un homme et une femme, comment Dieu l'a voulu, comment Dieu le veut toujours aujourd'hui en 2015, et comment Dieu le voudra jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et je crois que c'est très important que nous posions les bonnes questions quand nous faisons face, justement aujourd'hui, actuellement, à une remise en question de qu'est-ce que c'est que le mariage, quelles sont les fondations, qu'est-ce qui veut déterminer, qui a l'autorité pour déterminer ce qui fait un mariage selon le Créateur. D'abord, comprenons ce qui est au cœur de ce mariage entre Christ et l'Église. Ce que Jean le Baptiste essaie de dire ici, qu'est-ce qu'il essaie de dire aujourd'hui à l'Église? Le verset 29, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Et ensuite, on voit que Jean le Baptiste continue à prêcher le même évangile que Jésus a annoncé un petit peu plus tôt, en rappelant l'importance de suivre Jésus. Donc Jean Baptiste, quelque part, dans cette période de l'histoire, joue un rôle très important dans ce mariage, car d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il est le Shoshben, c'est-à-dire celui qui, dans la société juive, organisait cette cérémonie de mariage, accompagnait et présentait l'épouse à son futur époux. C'est ce que Jean-Baptiste fait ici. Il prépare la venue du Christ, l'époux, pour le présenter à l'Église, l'épouse. Et quel mariage en perspective! Alors ce soir, si vous êtes un chrétien, vous appartenez à l'Église, vous formez l'Église de Jésus-Christ, et donc, on peut dire, vous êtes fiancé à Jésus-Christ, dans l'attente de ce mariage, lorsque Christ va revenir et qu'il va prendre l'Église, son épouse. Mais, si, comme dans des fiançailles, vous ne savez pas encore tout sur celui que vous envisagez épouser, pour être sûr de votre engagement envers cette personne, finalement, il vous suffit de savoir une chose fondamentale. Il vous suffit de savoir que votre futur époux, là, bien sûr, je m'adresse aux dames, aux demoiselles, puisqu'il est question de l'Église, le féminin ici, il vous suffit de savoir que votre futur époux vous aime inconditionnellement au point qu'il serait prêt à donner sa vie pour vous. Et à la lumière de cela, tout le reste est de moindre importance. Vous voulez faire le bon choix, assurez-vous. Est-ce que cet homme avec qui je veux passer le reste de ma vie est prêt, est-il prêt à réellement mourir pour moi? Je me souviens avoir lu il y a quelques années dans les annales des rois de Perse, on raconte que l'épouse d'un des généraux de Cyrus, celui d'ailleurs qui est mentionné par le prophète Ésaïe, fut accusée de haute trahison. Alors la sentence à l'époque, eh bien, c'était, ça ne faisait pas de quartier, comme on dit, c'était la peine de mort. Et lorsque son mari apprit la nouvelle, il s'est précipité au palais, il a fait irruption dans la salle des audiences, il s'est présenté devant le trône du roi Cyrus, il s'est jeté à ses pieds en s'écriant « Seigneur, prends ma vie plutôt que la sienne, je demande de mourir à sa place. » Et alors le texte dit qu'il paraît que le roi Cyrus fut tellement bouleversé par cet acte d'amour qu'il aurait dit à haute voix « On ne peut pas gaspiller un tel amour par la mort. » Et il fit grâce à l'épouse, il la rendit à son mari. Alors qu'il sortait joyeux du palais royal, le mari dit à sa femme « As-tu remarqué à quel point les yeux du roi étaient remplis de compassion lorsqu'il t'a pardonné ?» Et la femme aurait répondu, « Ce n'étaient pas tellement les yeux du roi qui ont attiré mon regard, car toute mon attention était sur l'homme qui était prêt à mourir à ma place. » Et je pense que d'une certaine façon, c'est ce que Jean le Baptiste veut essayer de nous communiquer ce soir dans ce texte. Il veut que toute notre attention soit sur celui qu'il compare à un époux qui est le Christ, prêt à mourir pour son épouse qui est l'Église. Et pour la gracier, pour la libérer, pour l'aimer. C'est exactement ce qu'il fait, puisqu'on sait qu'il est venu pour mourir pour cette Église. Alors les paroles de l'apôtre Paul ne devraient pas nous étonner lorsqu'il invite les maris à aimer leurs épouses, comme Christ a aimé l'Église, en se livrant pour elle, en donnant sa vie pour elle. Mais Jean-Baptiste ne dit rien de nouveau en réalité, car en parlant du Christ comme étant l'époux et en parlant de l'Église comme étant l'épouse, on retrouve cette idée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est déjà question de mariage entre Dieu et son peuple. Si vous prenez le prophète Ésaïe, par exemple, Ésaïe 54, 5, il est dit, je cite, « Car ton Créateur, Dieu donc, est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » Donc Ésaïe compare déjà Dieu là à l'époux. Dans, au chapitre 62, verset 5, il dit « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Et entre parenthèses, ici, indirectement, Jean est en train de proclamer la déité du Christ, car dans l'Ancien Testament, seul Dieu est présenté comme étant l'époux. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un roi ou quelque grand leader qui est comparé à l'époux. Seul Dieu porte ce titre et Jean, qui s'adresse à des juifs, donne ce titre au Christ. Mais revenons un petit peu à ce couple de fiancés qu'est le Christ et son Église. Christ est mort pour elle. Elle a été rattachée à un grand prix pour lui appartenir. Et pourtant, le Christ, Jésus, ne nous possède pas comme on possède une chose. J'ai aussi lu cette histoire qui m'avait bouleversé il y a quelques années. C'était le fameux Abraham Lincoln, qui donc, vous le savez, qui est un des personnages clés pour abolir l'esclavage aux États-Unis. Et un jour, il est allé sur un marché d'esclaves, et là, il y avait une belle esclave noire, et parce qu'elle était très belle, eh bien, les enchères montaient. Et Abraham Lincoln aurait, lui, offert le prix le plus élevé. Et donc, quand il a enfin réussi à l'obtenir, il lui a dit, « Tu es libre. Je t'ai acheté pour que tu sois libre. » Alors, elle lui aura répondu, « Tu veux dire que je peux aller où je veux? Je peux faire ce que je veux? Je peux dire ce que je veux ?» Et il lui a dit, « Oui, absolument, tu es libre. » Alors, elle a répondu, « Eh bien, je veux aller avec vous et être votre servante. » Christ meurt pour nous racheter. Il nous rend notre liberté pour qu'avec cette liberté, nous puissions en retour volontairement l'aimer, le suivre et le servir. Et ça, mes amis, c'est ce que produit l'évangile de la grâce. Et c'est l'évangile dans toute la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec des gens qui disent « Vous, vous croyez dans le Dieu du Nouveau Testament, nous croyons dans le Dieu de l'Ancien Testament. Dans le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de l'amour. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi. » Mais pas du tout. Le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament est le même Dieu. C'est le Dieu qui a donné la loi, comme on l'a rappelé ce matin, car la loi de Dieu nous rappelle à chaque fois quelles sont les exigences de Dieu pour nous, mais c'est le Dieu de la grâce qui est venu pour payer ces exigences sur la croix en Jésus-Christ. Et on retrouve l'Évangile dans l'Ancien Testament. Si vous avez un peu de temps pendant l'été, je vous invite à lire, entre autres, le prophète Osée. C'est une prophétie extraordinaire. Et là, on voit que Dieu demande à son prophète pour, quelque part, illustrer la grâce, il lui dit, eh bien, Osée, tu vas devoir épouser Gomère, qui est une prostituée, et il va falloir que tu l'aimes malgré son passé de prostitution. Et Osée obéit, et donc il épouse Gomère, et même une fois mariée, pourtant il lui offre tout, là, elle l'abandonne, et elle continue à aller voir ses amants. Malgré cela, son époux continue à pourvoir à ses besoins. Et quand elle se trouve abandonnée de ses amants, quand elle passe de l'un à l'autre, et que finalement ils se sont servis d'elle, et qu'elle est maintenant abandonnée dans la rue, sans vêtements, elle se retrouve elle-même sur le marché des esclaves. Et là, son mari vient, il offre le prix le plus élevé, comme Abraham Lincoln, et il l'achète, bien qu'elle soit sa femme. Il la rachète à un prix très élevé, nous dit le texte. Il la revêt d'habits, il la ramène à la maison, et il continue à l'aimer. Et bien, mes amis, c'est comme ça que Dieu nous aime. C'est comme ça que Dieu aime l'épouse à venir l'Église. Christ est mort pour nous racheter. Et l'amour que Dieu a pour son peuple, l'Église, ne cessera jamais. Et donc, qu'est-ce qu'on attend d'une telle épouse? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en retour de son amour? La seule chose qu'il demande, c'est la fidélité. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 4. Il dit donc aux chrétiens, à des chrétiens à Corinthe, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne soient corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous semblez le supporter fort bien. » Ces paroles de Paul nous montrent que l'Église de Jésus-Christ peut être fidèle, est appelée la fidélité, mais elle peut être aussi infidèle au Christ. Et en réalité, c'est là toute l'histoire de l'Église. Dès que celle-ci, cette Église, cette épouse, se sépare de l'Écriture sainte, c'est-à-dire des paroles de Dieu, elle risque de tomber dans l'adultère spirituel. Dès que celle-ci commence à séparer le Jésus de l'histoire avec le Dieu éternel, elle tombe dans l'adultère spirituel. Dès que celle-ci commence à voir des expériences spirituelles plus importantes que la parole de Dieu ou qu'une vie consacrée à Jésus-Christ, elle suit un autre esprit et tombe dans la prostitution spirituelle. Dès que celle-ci remplace le salut par la foi seule avec le salut et la tradition, ou le salut et la foi et les bonnes œuvres, ou la foi et la tradition, elle prêche un évangile autre que celui de saint Paul. Dès que cette Église embrasse les valeurs païennes d'une société païenne, une société qui a rejeté Dieu, et dès qu'elle commence à embrasser ces valeurs-là, eh bien, elle se trouve dans le camp de l'Église infidèle. Et l'apôtre Paul se soucie de la fragilité des chrétiens de la ville de Corinthe, qui semblent prêts à accepter ces valeurs païennes de leurs propres contemporains, tout en voulant rester attachés aux valeurs chrétiennes. Et c'est comme être assis entre deux chaises, comme si c'était un mariage possible. Alors il est jaloux, il dit, d'une jalousie de Dieu, car il veut présenter à Christ, l'époux, une église nette, une église fidèle, une église vierge, il dit. Alors dans le cas des Corinthiens, on sait que l'infidélité de l'église ne concernait pas seulement le syncrétisme religieux, cela touchait aussi l'éthique et la morale chrétienne. Certains venaient au repas du Seigneur complètement ivres. D'autres, il dit, un autre a pris pour femme sa propre mère. La promiscuité sexuelle des habitants de Corinthe était entrée tellement dans les mœurs que c'était même rentré dans l'Église et personne semblait réagir. Alors Paul a dû écrire deux longues lettres à cette Église pour rectifier le tir. Qu'est-ce qu'il écrirait aujourd'hui à l'Église moderne du 21e siècle? Qu'est-ce qu'il nous dirait aujourd'hui? Qu'en est-il de l'Église aujourd'hui et où nous trouvons-nous? Vous savez, j'ai eu beaucoup d'appréciation pour un philosophe et théologien qui s'appelait Francis Schaeffer, qui est maintenant décédé, mais qui avait écrit un livre, entre autres, qui s'appelait « L'Église à la fin du XXe siècle ». Alors on peut dire que Francis Schaeffer était un prophète avec un petit P. Mais il a vu venir où nous sommes exactement aujourd'hui. Il a prédit ce qui se produit aujourd'hui et les grandes décisions éthiques et morales auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Et alors, à partir de ce texte d'Éphésiens 5, 25 à 32, eh bien, il montre que l'apôtre Paul fait un lien étroit là, entre la relation de l'homme et de la femme dans le mariage avec la relation du Christ et de l'Église. Et il montre, entre autres, que les standards du mariage chrétien sont élevés parce qu'ils sont le reflet du caractère même de Dieu dans sa relation avec son peuple, l'Église. Et donc, l'amour inconditionnel de l'époux demande la fidélité de l'épouse. Et par analogie, Francis Schaeffer dira, entre autres, que la promiscuité sexuelle ou l'infidélité dans le mariage, et on dirait aujourd'hui le mariage homosexuel, sont à bannir pour trois raisons. Et la première chose, c'est ce qu'on oublie dans tout ce débat quant au fameux mariage pour tous, c'est parce qu'il y a une autorité qui est supérieure à toute autre autorité, qui est l'autorité de Dieu et de sa parole, qui est une autorité absolue. Seul Dieu peut déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Seul Dieu peut nous dire que la différence entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Seul Dieu peut parler de vrai ou de faux, de bon ou de mauvais. Ce n'est pas Bruxelles qui détermine cela. Ce n'est pas une société qui, par un vote de la majorité, peut déterminer cela. Pas du tout. Ce n'est pas la Cour suprême américaine qui peut déterminer ce qui fait l'autorité suprême. En fait, l'autorité à laquelle nous sommes appelés à nous soumettre, on voit ça dans Romains 13, est une autorité qui est soumise à l'autorité de Dieu, qui est l'autorité suprême. Ça veut dire que nos présidents, nos juges, ceux qui décident pratiquement pour nous, sont d'ailleurs, selon Jean Calvin, des diacres de Dieu. Ils sont là au service de Dieu et ils auront des comptes à rendre à Dieu. Alors on se soumet aux autorités. Mais lorsque ces autorités-là imposent ou déclarent des lois qui vont contre celles de Dieu, le choix est vite fait. Donc, c'est la première raison pour laquelle nous pouvons être assurés qu'il y a une autorité absolue et qu'on doit d'abord suivre cette autorité. Mais la deuxième raison, et Francis Schaeffer fait ressortir cela, pour laquelle la promiscuité sexuelle, le mariage homosexuel, l'infidélité dans le mariage sont à bannir, c'est que non seulement parce que Dieu, l'autorité absolue, l'a dit, mais aussi parce que c'est une question de logique, une question de société. Dieu a créé des lois parce que c'est bon pour nous. Les lois que Dieu nous a données n'ont pas été données comme ça au hasard. C'est parce que c'est ça qui construit une bonne société. Et puis, troisièmement, la raison pour laquelle Dieu nous exhorte à rejeter le mariage homosexuel, la promiscuité sexuelle et rester fidèle à nos engagements de mariage, c'est parce que c'est Dieu le premier qui a clairement défini le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Je vous rappelle qu'il l'a fait avant la chute. Et je vous rappelle que tout au long de l'Ancien comme Nouveau Testament, Dieu a dit toujours la même chose. C'est une relation exclusive entre un homme et une femme. Et cette relation unique est une illustration de la relation unique qui existe entre Dieu et son peuple, entre Christ et l'Église. Et c'est pourquoi Paul pourra dire « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure. » Parce que le mariage est présenté comme une relation intime entre Dieu et son peuple, entre Christ et l'Église. De même, écrit l'apôtre Paul, et c'est là qu'il donne donc le rôle de chacun dans ce plan de Dieu. La femme doit aimer son mari en se soumettant volontairement à lui, comme l'Église doit aimer le Christ en se soumettant volontairement à lui. Le mari doit aimer sa femme et doit être prêt à mourir pour elle, comme Christ a aimé l'Église au point qu'il est mort pour elle. Alors je sais que c'est une jeune paroisse et qu'il y a ici déjà plusieurs d'entre vous qui êtes mariés, mais il y a aussi les futurs jeunes qui vont se marier et il y a encore tous les bébés qui doivent grandir. Et je crois que cette question de mariage selon Dieu va se poser de plus en plus et l'Église a un rôle fondamental pour préparer la prochaine génération à penser selon les pensées de Dieu. Alors, je dirais, lorsque vous allez envisager d'épouser quelqu'un, vous devez vous poser un certain nombre de questions concernant ce jeune homme ou cette jeune femme avec qui vous envisagez un possible mariage pour la vie. Les standards de l'Écriture sont élevés car ils reflètent le caractère même de Dieu. Alors, une petite suggestion, jeune femme, pour vous qui n'êtes pas encore mariée, posez-vous la question, bien que je sache qu'il est ce futur et qu'il restera un pécheur comme moi je le suis, peut-il m'aimer comme Jésus-Christ a aimé l'Église? Puis-je l'aimer et le respecter en me soumettant volontairement à lui comme l'Église est appelée à suivre Jésus-Christ? Jeunes hommes, posez-vous la question Est-ce que j'aime cette jeune femme au point de me donner entièrement pour elle? Suis-je prête à couvrir ses fautes, à être patient avec elle comme Christ l'a fait et continue à le faire pour l'Église? Suis-je prêt à mourir pour elle? Mais l'illustration du mariage entre Christ et l'Église concerne aussi les couples déjà mariés. Ce ne sont pas les difficultés de couple qui peuvent justifier l'abandon de l'ami de sa jeunesse. Les difficultés, tous les couples en ont. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Car cela suggérerait, si cet abandon était possible, que Dieu aussi pourrait nous abandonner, mais il fait le contraire. Et finalement, et je vous ai dit que je serai court, donc je raccourcis, mais ce thème du mariage entre le Christ et l'Église nous amène à une dernière considération. Vous voyez, il y a une table qui est dressée ici devant nous ce soir, qui nous rappelle que l'épouse est dans la période de fiançailles. L'Église est dans cette période de fiançailles et que Jésus, l'époux, va bientôt revenir pour le mariage, pour les noces, qui seront accompagnées du plus grand banquet de toute l'histoire. Et je crois que les cuisiniers seront tous français, c'est sûr. Qu'est-ce qu'une fiancée attend le plus au monde? Qu'est-ce qu'elle attend? Avec anticipation, elle attend le jour du mariage. Qu'est-ce que l'Église attend le plus au monde, si ce n'est le retour de Jésus-Christ? Alors, comment une fiancée vit-elle en vue de son mariage? Comment vivons-nous en tant qu'Église en vue du retour de Christ? Et il y a deux possibilités, et j'aimerais les illustrer par deux histoires qui sont des histoires vraies. Et c'est d'ailleurs dans la même période. C'était à la veille de la Première Guerre mondiale, et un jeune homme venait juste d'épouser une jeune femme, et il fut appelé à partir au front. Quelque temps plus tard, la jeune épouse lui écrivit pour lui dire qu'elle était trop occupée pour lui écrire des lettres parce qu'elle était affairée à soigner tous les blessés qui revenaient du front et qu'elle n'aura donc plus le temps de lui écrire. Et plusieurs mois passèrent et le jeune mari a eu enfin une permission. Alors il est arrivé dans son village et un de ses amis qu'il connaissait bien l'encouragea à faire une visite surprise à sa femme. C'est ce qu'il fit. Il est donc allé tout droit à l'hôpital. Mais là, à l'hôpital, les gens disent « Mais on n'a jamais entendu parler de cette dame. » Elle n'était pas chez elle non plus. Et finalement, quelqu'un lui a soufflé « Ben écoute, si tu veux trouver ta femme, il y a une boîte de nuit dans le coin. Elle est là. » Alors, il s'y rendit et il trouva sa femme dans les bras d'un autre homme. L'autre situation. Au début de cette même guerre mondiale, un autre couple se préparait à se marier. Alors ils avaient acheté un petit bout de terre, ils avaient construit une petite maison, ils avaient réussi à rassembler quelques meubles. La date du mariage était même proche lorsque le jeune homme est appelé à servir dans les forces armées. Le jour avant son départ, la jeune femme lui aurait dit « Je sais que c'est pas la date prévue pour notre mariage, mais tu vas partir et je ne sais pas si tu vas revenir. Je préfère passer toute ma vie en tant que veuve et porter ton nom » plutôt que d'avoir à dire à tout le monde pour le reste de ma vie que celui que j'aimais n'est jamais revenu de la guerre. Alors, marions-nous tout de suite. Le jour suivant, ils furent unis par le mariage, mais en guise de lune de miel, eh bien le mari se rendit sur le front et la jeune épouse s'en alla toute seule dans leur petite maison. Alors vous imaginez la solitude, elle ne vivait que pour le retour de son mari. Jour après jour, elle l'attend et tous les jours, il lui écrivait une lettre, il lui envoyait même des petits cadeaux de temps en temps. Et des mois plus tard, elle se sent un soir particulièrement déprimée. Alors elle sort tous ses cadeaux, tous les cadeaux que son mari lui avait envoyés, et puis toutes ces lettres qu'elle étale devant la cheminée, et entrecoupées de sanglots, elle les lisait, elle les relisait sans cesse. Et soudain, alors qu'elle est en train de lire une de ses lettres, elle entendit des pas sur le palier. La porte s'ouvrit et c'était lui. Alors il avait envoyé un télégramme, mais vous savez, à l'époque, les télégrammes n'arrivaient pas toujours. Et quand elle l'a vu, et qu'elle réalisa qu'elle ne rêvait pas, la jeune épouse se leva et dans un élan, dispersa toutes les lettres de son mari. Certaines même se sont envolées et ont brûlé dans le feu, mais peu importe. Il était de retour en chair et en os. L'époux tant attendu était de retour, et l'épouse l'attendait fidèlement. Et celui qui rapporte ces deux histoires écrit, je cite, « Chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et il va vous retrouver. Et vous et moi, nous sommes dans une de ces deux histoires. » Serez-vous en train de flirter avec le monde, d'accepter les compromis de notre société post-chrétienne? Ou serez-vous préoccupé avec les lettres d'amour de votre fiancé Jésus-Christ, étalant devant vous ses cadeaux, ses dons, sa grâce? Cette table devant nous nous le rappelle chaque dimanche en pensant à lui. Eh bien Jésus, nous le savons, tu as toutes les promesses. Et quand il a dit qu'il allait revenir, il va revenir. Et la question c'est, comment est-ce qu'il va retrouver chacun d'entre nous, comment est-ce qu'il va retrouver son Église? Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants pour ce que tu as démontré en tant que Dieu notre Père, en envoyant ton Fils, l'Époux, pour se préparer à recevoir l'épouse, l'Église, et le prix qu'il a dû payer pour cela, pour la laver. Seigneur, nous voulons, comme le prophète Osée nous le dit, comme Abraham Lincoln le raconte, et pouvoir dire en retour de ta grâce et de ton amour, toi qui as tant aimé le monde, de pouvoir dire en retour, je veux te suivre volontairement, et je veux te suivre avec tout mon cœur, parce que l'amour fait répondre, fait appel à l'amour. Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre cela dans les périodes complexes de notre société qui remettent en question les choses fondamentales que toi, notre Dieu, tu as créées. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèle à ta parole, fidèle à nos mariages, et que nous puissions être dans nos mariages de tous les jours le reflet du mariage de Christ et de l'Église. C'est en son nom que nous prions. Amen.